aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro. Un seul grand titre pour cette édition de lundi 20 janvier 2025.
Please raise your right hand and repeat after me.
Répétez après moi.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Donald J. Trump, jure solennellement
that I will faithfully execute.
Que je vais m'acquitter consciencieusement
the office of President
de mes responsabilités en tant que président des États-Unis
and will, to the best of my ability,
et que je ferai de mon mieux pour préserver, protéger et défendre
the Constitution of the United States.
Constitution des États-Unis. Que Dieu m'en aide. Félicitations, Monsieur le Président.
Donald Trump a prêté serment. Il devient le 47e président des États-Unis et promet à l'Amérique un âge d'or. Bonsoir, bienvenue. C'est fait, Donald Trump a prêté serment aujourd'hui sous la coupole du Capitole à Washington, la capitale américaine, devenant le 47e président des États-Unis et à 78 ans. Il a levé la main droite et a juré, selon la Constitution, selon la formule consacrée, de protéger la Constitution. Le républicain, déjà président de 2017 à 2021, signe ainsi l'un des plus extraordinaires retours de l'histoire politique récente. Le milliardaire républicain qui avait battu la vice-présidente démocrate Kamala Harris le 5 novembre est désormais à 78 ans le chef d'État américain le plus âgé jamais investi. Dans le discours qui a suivi sa prestation de serment, il a dit que l'âge d'or de l'Amérique commence. Le président élu républicain a promis de transformer le rôle des États-Unis sur la scène mondiale, d'élargir les prérogatives de l'exécutif et surtout d'expulser des millions d'immigrés. On écoute Donald Trump.
Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets historiques et par ces actions, nous allons entamer le rétablissement des États-Unis et rétablir la logique, le sens commun dans les affaires nationales. Tout d'abord, je vais déclarer une urgence nationale le long de la frontière au sud des États-Unis. Toute entrée illégale prendra fin immédiatement et nous allons entamer le processus de renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels vers les pays d'où ils proviennent. Nous allons rétablir la politique « Rester au Mexique ». Je mettrai fin à la pratique où l'on attrape les entrées illégales et on les laisse libres. Et j'enverrai des troupes le long de la frontière avec le sud des États-Unis pour repousser l'invasion catastrophique de notre pays.
Sous
les ordonnances que je vais signer aujourd'hui, nous allons également nommer les cartels comme des organisations terroristes étrangères.
Et
en invoquant une loi de 1798 sur les ennemis du pays, je permettrai d'utiliser toutes les forces de l'ordre pour éliminer la présence de tous les gangs et les réseaux criminels qui exercent des activités criminelles catastrophiques dans les villes des États-Unis. En tant que commandant en chef, je n'ai d'autre responsabilité que de défendre notre pays des menaces et des invasions, et c'est précisément ce que j'ai l'intention de faire. Nous le ferons à un niveau qui n'aura jamais été vu auparavant.
Donald Trump, président des États-Unis. La parade se déroulant traditionnellement le long de l'avenue attenante à la Maison-Blanche, la mythique Pennsylvania Avenue, aura lieu en intérieur à cause du froid ici dans la capitale américaine, à la Capital One Arena, salle d'une capacité de 20 000 places, assise où Donald Trump a organisé hier dimanche un rassemblement de pré-investiture. Nous retrouvons notre reporter Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous, effectivement, je suis toujours au niveau de la Capital One Arena et donc cette enceinte où les nombreux partisans de Donald Trump sont réunis attendant impatiemment de voir leur idole, désormais président des États-Unis. On l'a suivi tout au long de la prestation du serment. Lorsque J.D. Vance, le vice-président, prêtait serment, il poussait déjà des cris de joie et autour de Trump, c'était l'extase totale, que ce soit de l'intérieur, bien sûr, de la Capital Arena où on entendait des cris, mais aussi pour ceux qui n'ont pas pu entrer au sein de cette salle-là, qui ont suivi bien sûr cette prestation de serment, que ce soit dans les cafés ou les restaurants et autres. Beaucoup l'ont dit juste après son discours, c'est ce qu'on voulait entendre lorsque Donald Trump a parlé de déclarer l'état d'urgence nationale à la frontière sud avec le Mexique. Eh bien, on pouvait le voir, des sourires, des cris de joie. Et encore lorsqu'il a déclaré l'état d'urgence, bien sûr, énergétique, ses nombreux partisans l'ont dit juste après, à chaud, ils disent, écoutez, c'est ce qu'on voulait entendre. Il a dit pendant la campagne, cette fois-ci, il va matérialiser ça sur le terrain. Ils le disent, bien sûr, de façon littérale, il faut chasser ces migrants, ces immigrés, bien sûr, illégaux des États-Unis. Écoutez, en tout cas pour l'ensemble, on peut dire que ce sont des partisans de Donald Trump assez satisfaits de ce qu'ils ont entendu du discours du 47e président des États-Unis.
Donald Trump est attendu ce soir à la Maison-Blanche pour une cérémonie dans le bureau ovale pour signer des décrets, le tout suivi d'un certain nombre de balles dans la ville de Washington pour célébrer l'investiture, pour célébrer le nouveau mandat. Le président Trump assistera demain mardi à la cérémonie de prière traditionnelle le matin à la cathédrale nationale de Washington. Yacouba Ouedraogo a déjà recueilli les réactions des Américains venus des quatre coins des États-Unis pour suivre l'investiture.
Nous sommes venus pour l'investiture. Nous avons vu cet événement historique et nous voulions en faire partie.
Je pense que c'est très intéressant, très intéressant. J'ai donc conduit ma voiture de New York jusqu'ici.
Nous étions censés être là-haut. Nous voulions le voir, mais nous en faisons toujours partie. Vous savez, vous êtes là. Nous faisons ceci. Nous ne l'aurions pas fait autrement.
C'est quelqu'un de bien. Tout ce qu'il a dit pendant son mandat précédent, il l'a fait, n'est-ce pas? Il a fait tout ce qu'il avait promis, il l'a fait. Ils ont tout fait à cet homme, ce pauvre homme. Je suis reconnaissant qu'il se soit vraiment levé et qu'il leur a écrasé le visage sur le sol.
C'est à peu près la même chose que le premier mandat de Trump. Il s'agit de relancer l'économie. Et évidemment, l'immigration est un sujet dont tout le monde parle beaucoup. Ce serait un autre sujet, mais pour moi, en tant que chef d'entreprise, c'est l'économie.
Encore une fois, il s'agit de pouvoir vivre à un niveau abordable. Je suis une mère célibataire avec deux enfants. La vie est dure et j'ai hâte de pouvoir me payer des courses sans avoir à me soucier de faire des économies jusqu'à la prochaine paye.
Voilà, c'était quelques réactions d'Américains prises dans la rue à Washington. De nombreux leaders internationaux ont exprimé leurs félicitations au 47e président des États-Unis. Tour d'horizon maintenant des principales réactions à son investiture. Le point tout de suite avec Eric Manirakiza.
Le roi Charles III a souligné la relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis, tandis que le premier ministre canadien Justin Trudeau a mis en avant l'importance du partenariat économique entre les deux pays, tout en exprimant des inquiétudes sur les droits de douane. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, dit espérer une collaboration étroite avec le président américain pour relever les défis mondiaux. Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à maintenir de bonnes relations transatlantiques, tandis que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé son optimisme, promettant les beaux jours des relations futures entre Israël et les États-Unis. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a souligné un renforcement des dépenses de défense sous la présidence Trump, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé l'espoir d'une paix juste et durable en Ukraine grâce à l'approche du nouveau président américain. Le président russe Vladimir Poutine, tout en se déclarant ouvert au dialogue avec Trump, a évoqué une possible paix durable en Ukraine. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a souhaité que les États-Unis restent un partenaire historique du Brésil et le premier ministre indien Narendra Modi a exprimé son désir de renforcer la coopération entre Washington et New Delhi.
Merci Eric Manirakiza. Nous reviendrons dans quelques instants sur la couverture de cette investiture du président Donald Trump, mais tout d'abord de l'actualité dans le reste du monde. Bonsoir à tous. En Guinée, une peine de 5 ans de prison ferme a été requise lundi contre l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, jugé à Conakry par une cour spéciale pour détournement de fonds publics, corruption et blanchiment de capitaux. La cour de répression des infractions économiques et financières reproche à l'ancien premier ministre des malversations sur plus d'1,6 million d'euros destinés à la gestion anti-Covid et à des programmes économiques et sociaux sous l'ex-président Alpha Condé. La CRIEF est une juridiction anticorruption instituée par les militaires qui ont renversé le président Alpha Condé. Le verdict a été mis en délibéré au 13 février. Le ministre de la Communication du régime militaire nigérien a levé la suspension d'une importante chaîne de télévision privée et de son rédacteur en chef qu'il avait annoncé sans motif après la diffusion d'un sujet sur l'efficacité du gouvernement. Dans un décret publié vendredi, le ministre Sidi Raliou Mohamed avait suspendu la carte de presse du rédacteur en chef de Canal 3, Seni Amadou, pour 3 mois et les programmes de la chaîne pour 1 mois. Le lendemain, M. Amadou a été interpellé et placé en garde à vue. Le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise ont eu un recours accru aux armes explosives dans les zones peuplées de l'est de la RDC au premier semestre 2024 selon une enquête d'Amnesty International publiée aujourd'hui. En janvier et juillet 2024, des armes explosives imprécises à large rayon d'impact ont été utilisées dans des zones densément peuplées plus de 150 fois, faisant plus de 100 morts et des centaines de blessés parmi les civils, écrit Amnesty International. Un cas suspect de Marburg a été confirmé en Tanzanie, marquant le début d'une nouvelle flambée de cette maladie dans le pays d'Afrique de l'Est, ont annoncé aujourd'hui la présidente Samia Suluhu Hassan. Le 15 janvier, l'Organisation mondiale de la santé avait annoncé qu'une épidémie présumée du virus de Marburg en Tanzanie avait tué 8 personnes, soulignant que le risque de propagation dans le pays et la région était élevé. Au total, 26 cas suspects ont été testés et un seul s'est révélé positif. Ce cas se situe dans la région de Kagera, à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, 16 Soudanais ont été tués la semaine dernière dans des violences. Le calme est revenu, mais des mesures de protection des réfugiés sont toujours en place, a indiqué aujourd'hui la police de ce pays frappé par une instabilité chronique. Une manifestation organisée dans la capitale Juba jeudi soir a dégénéré en pillage de commerces soudanais. Les violences se sont propagées à travers le pays. Le lendemain, les autorités ont dans la foulée instauré un couvre-feu nocturne, tandis que le président Salva Kiir appelait à la retenue. La police sud-africaine recherche activement le cerveau présumé d'une exploitation minière illégale où 87 corps ont été découverts lors d'une opération de plusieurs mois visant à évacuer un puits d'or, ont annoncé aujourd'hui les autorités. Le suspect connu sous le nom de Tiger faisait partie des 1907 mineurs clandestins arrêtés après être remontés du puits désaffecté de Stilfontein, situé à environ 140 km au sud-ouest de Johannesburg, avant de s'évader selon un communiqué de la police. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza s'est maintenu ce lundi après un premier échange d'otages contre des prisonniers palestiniens qui a marqué le début d'un long processus devant mettre fin à 15 mois de guerre. Dès que les armes se sont tues dimanche, l'aide humanitaire a commencé à affluer dans le territoire palestinien en ruine pendant que des milliers d'habitants de Gaza se précipitaient pour retrouver leur maison.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le principal dossier de ce jour, l'investiture de Donald Trump pour un second mandat à la Maison-Blanche. Le président entrant, Donald Trump, a promis une série de mesures exécutives dès le premier jour. Des décrets exécutifs sont déjà prêts à être signés. Le républicain déclarera l'état d'urgence nationale à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, enverra des troupes américaines pour aider les agents d'immigration et limitera les réfugiés et l'asile. Nathalie Barge a interrogé des Américains sur le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump.
Quelques jours avant l'investiture de Donald Trump pour un second mandat de 4 ans, la ville de Washington a déployé des moyens considérables pour barricader plusieurs quartiers et bâtiments de la capitale administrative des États-Unis, qui abrite plus de 100 agences fédérales et les administrations gouvernementales. Cindy Fess, 28 ans, coiffeuse chez Mobs à Manassas en Virginie, avoue ne pas avoir voté pour Trump, mais elle espère que son administration se démarquera de celle de Joe Biden, qu'elle estime décevante.
J'espère qu'il y aura du changement, mais qu'il aura appris de la façon dont il a parlé dans le passé et qu'il parlera avec plus d'amour pour les gens, plus de respect envers les femmes. Et maintenant, avec un peu plus d'aide, nous pourrons voir un peu plus de changement.
La cliente de Cindy, Bethéan, réside à Della Plain, village historique viticole de 1400 habitants en Virginie. Elle importe du café en grains d'Afrique et d'autres continents pour son entreprise de torréfaction.
S'il finit par imposer des droits de douane, cela va entraver mes affaires et entraîner beaucoup de coûts inutiles. Mais d'un autre côté, je trouve que le marché se porte beaucoup mieux avec un républicain au pouvoir.
Et
la plupart de mes fonds sont investis sur le marché. J'ai donc un sentiment partagé. Il y a du bon et du mauvais pour moi.
Luc Tamer, qui gère avec son frère un restaurant de spécialité créole, fait partie des nombreux petits entrepreneurs espérant payer moins de taxes professionnelles.
La nouvelle administration, vous savez, j'attends de voir. J'aimerais voir plus d'aide pour les petites entreprises, évidemment, en tant que commerçant. Et j'aimerais voir éventuellement un meilleur allègement fiscal pour les petites entreprises.
Quant à Matthew, vendeur ambulant à Washington DC, il fait aussi des travaux de jardinage pour joindre les deux bouts. Il est bénéficiaire du SNAP, le programme d'aide alimentaire appelé communément Food Stamp, depuis sa création par le département de l'agriculture en 1939.
Il a déjà annoncé qu'il essaierait de supprimer l'aide gouvernementale en réduisant notre aide alimentaire. Donc les gens feraient mieux de se préparer parce qu'ils voudraient apporter un nouvel ordre mondial et mettre fin à tout ce que nous pouvons définir comme ancien mode de vie. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose.
Jane Hunter, mère de famille conservatrice, se dit très satisfaite et impatiente de voir les réalisations de la nouvelle administration Trump qui reprend les rênes après le mandat de Joe Biden.
Nous avons apprécié Trump lors de son premier mandat. Nous pensons qu'il a vraiment rendu à l'Amérique sa grandeur et nous avons hâte qu'il le fasse à nouveau. Nous sommes une famille très conservatrice. Nous n'aimons pas ce qui se fait dans le camp libéral. Donc nous savons que Trump sera plus en phase avec nos convictions et nous le voyons avec enthousiasme.
Chaque Américain a ses propres attentes sur les 4 années à venir. Mais chaque espoir est légitime. La beauté de la diversité des États-Unis, ce n'est pas seulement une affaire d'origine, de génération ou de genre, mais c'est avant tout la variété des points de vue et la liberté de pouvoir les exprimer.
Nous allons décortiquer maintenant le premier jour de Donald Trump, du président Donald Trump, à la Maison-Blanche avec des analystes. Le premier que nous avons en ligne, c'est Henri Nzuzi. Il est à Bruxelles, du moins. Il est analyste politique et consultant en relations internationales. Bonsoir, Henri Nzuzi.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Alors, comment le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche s'inscrit dans une continuité ou une rupture historique?
Écoutez, c'est les deux à la fois. Il y a d'abord la continuité parce qu'effectivement, il y a un travail qui avait été entamé entre 2016 et 2020 qui a été interrompu. On sait dans quelles conditions cela a été fait. et puis évidemment une volonté à la fois de revanche et de rupture par rapport à ce qui a été mené comme politique ces quatre dernières années, notamment par l'administration Biden, indépendamment du fait que le bilan de Joe Biden n'est pas mauvais, n'est pas aussi mauvais que certains le prétendent, mais il y a effectivement un parfum à la fois de revanche, mais surtout une volonté de pouvoir imprimer durablement la lettre et l'esprit, bref, la marque de ce qui constitue le principal curseur de Donald Trump, c'est-à-dire une volonté affichée de changement radical, et on le voit déjà dans les propos qu'il a tenus aujourd'hui, hein, juste après sa prestation de serment, et des propos qu'il continue d'ailleurs à tenir, puisque ici à Bruxelles, on a la possibilité de suivre, on l'a fait maintenant, ça fait presque 10 heures de direct qui lui sont consacrés par les différentes chaînes de télévision. On voit très bien qu'il réaffirme très clairement ses ambitions, et il réaffirme très clairement son intention.
Ce nouveau mandat, Monsieur Nzuzi, de Donald Trump s'aligne en Europe avec le positionnement des politiques de droite à Bruxelles, au Parlement européen. Cela pourrait-il faciliter la relation Europe-Washington ?
Non, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Il y a effectivement une crainte assez légitime d'ailleurs de certains gouvernements européens qui, je le rappelle quand même, globalement étaient plutôt favorables à Joe Biden et qui ont été effectivement surpris par le résultat. Avec ce qui a été martelé durant la campagne par Donald Trump, les Européens ne se sont pas forcément sentis davantage rassurés. Il y a des dossiers sur lesquels il y aura effectivement beaucoup de difficultés d'avoir, je dirais, une forme de consensus. Et puis il y a effectivement cette division sur laquelle essaie de surfer Donald Trump entre ceux qui sont dans une posture plutôt atlantiste et ceux qui voudraient s'émanciper un tant soit peu de la tutelle américaine. On pense évidemment à l'OTAN et au parapluie américain que beaucoup d'Européens craignent de devoir se passer.
Comment le scepticisme affiché par Donald Trump vis-à-vis des alliances post-Seconde Guerre mondiale comme l'OTAN, l'ONU, etc. pourrait-il affecter le rôle des États-Unis sur la scène internationale ?
Alors, je pense qu'il y a actuellement deux lectures qu'il faut avoir. Autant les États-Unis avec Donald Trump ont une volonté de revenir sur le devant de la scène, mais sans trop d'interventionnisme, autant il y a une volonté du président américain de vouloir se recentrer sur la politique intérieure américaine, tout en maintenant une forme d'influence à l'international et en plaçant chacun de ses alliés devant ses responsabilités. En d'autres termes, vous avez bénéficié d'un parapluie protecteur depuis 1949, année de création de l'OTAN. Aujourd'hui, il est temps de prendre vos responsabilités et de pouvoir, eh bien, payer la juste part qui est la vôtre pour que vous puissiez continuer à bénéficier d'une forme de rente sécuritaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est de dire que sur certains dossiers importants, nous allons être attentifs à nos intérêts fondamentaux, et à partir de là, je pense que chacun devra être en capacité de pouvoir juger ce qui est légitime du point de vue européen et ce qu'il est du point de vue américain. Le dossier ukrainien est une preuve, ou plutôt un exemple très concret, où il y a une volonté américaine de vouloir trouver une solution peut-être au-dessus des Européens en traitant directement avec la Russie.
Alors, quel défi pourrait être soulevé par la signature rapide du décret présidentiel sur des sujets controversés comme l'immigration, l'énergie et le commerce ? Dernière question à Rizouzi.
Eh bien, de ce point de vue-là, Donald Trump aurait été conforme à la légende, c'est-à-dire que il dit ce qu'il va faire et il fait ce qu'il va. Voilà, il fait ce qu'il a dit. Et d'une certaine manière, cette attente contre notamment l'immigration clandestine est le premier signal fort de sa volonté véritablement d'imprimer sa marque, même s'il est vrai qu'il y a des considérations d'ordre humanitaire qui devront être prises en compte, mais je ne suis pas certain que ces considérations soient de nature à les mouvoir. Je pense qu'il a une volonté de marquer les esprits. Si l'on s'inscrit dans une dynamique des 100 premiers jours, il faudra effectivement s'attendre à ce que les 3 prochains mois, les 100 premiers jours de l'ère Trump, soient effectivement marquer du saut d'initiative spectaculaire, histoire de bien marquer les esprits.
Henri Nzouzi, nous allons nous arrêter là avec vous. Merci pour votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste politique et consultant en relations internationales et que vous interveniez depuis Bruxelles. En Belgique. Merci beaucoup. Nous rejoignons.
Merci infiniment.
Ok, nous rejoignons à Nairobi au Kenya. Ibrahim Khan, il est analyste politique. Il travaille pour le bureau africain de l'ONG Osiwa à Dakar au Sénégal. Bonsoir Ibrahim Khan.
Bonsoir.
Alors, on revient un peu sur l'immigration. Comment les promesses d'expulsion massive d'immigrés risquent-elles d'affecter les droits de ces populations et le tissu social américain en prenant en compte la diaspora africaine aux États-Unis?
Alors, sur la question de l'immigration, vous savez que oui, il y a beaucoup d'Africains qui sont installés aux États-Unis et qui sont en situation irrégulière. Et qu'il n'y a pas longtemps, la filière nicaraguayenne avait été vue par beaucoup de personnes comme étant une filière, vraiment une grande filière d'entrée vers les États-Unis. Mais à y regarder de près, l'immigration africaine aux États-Unis n'est pas très grande. Ce qui est plutôt important, c'est ce que vous appelez les Afro-Américains. Et si Trump décide de s'attaquer à cette immigration, vous verrez que les chiffres ne seront pas très 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 élevés. Et je ne suis pas sûr que l'économie américaine, si Trump applique les règles qu'il se promet de mettre en œuvre pendant sa campagne électorale, si l'industrie américaine va survivre ou si l'industrie américaine serait en mesure de compétir avec le reste des industries du monde. Ça, pour moi, c'est une première question. Et comme l'a dit tout à l'heure celui qui m'a précédé, les 100 premiers jours de Trump nous aideront à voir si réellement Trump va appliquer à la lettre ce qu'il a
promis. Alors, en attendant les 100 premiers jours, à quel point les discours et les actions disruptives de Donald Trump modifient les attentes traditionnelles autour de la présidence américaine?
Alors, Trump, c'est Trump. Tout le monde a appris à le connaître pendant son premier mandat. C'est quelqu'un qui joue sur sa manière de rendre les choses difficiles pour vraiment s'exprimer dans les relations internationales. Mais n'oublions pas que Trump arrive à un moment où le monde est multipolaire. Les relations que l'Amérique a peu d'emprise sur les pays africains. Les pays africains ont multiplié les relations avec la Turquie, avec la Chine, avec la Russie et autres. Et donc, qu'est-ce que puissent être les intentions de Trump? Ça n'aura pas beaucoup d'effet sur l'Afrique parce que Trump, d'abord, se désintéresse de l'Afrique. Il l'a montré pendant son premier mandat. Il n'y s'est même pas rendu. Et en plus, les États-Unis ne signifient pas grand-chose en termes vraiment de relations économiques fortes avec les pays africains.
Donc, alors, Monsieur Khan, je vais inverser la question pour terminer. Il nous reste 30 secondes. Que peut attendre l'Afrique du second mandat de Donald Trump? Vous avez 30 secondes.
Simplement que Trump respecte les engagements que les États-Unis ont pris en faveur de l'Afrique, notamment l'accès des États africains à deux postes permanents avec droit de veto au Conseil de sécurité et une réforme du système économique international. Si cela peut se faire, tant mieux. S'il ne le fait pas, le combat des Africains va continuer.
Merci Ibrahim Khan. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous travaillez pour le bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa, Dakar, et vous interveniez de Nairobi au Kenya. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.